plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Du mouvement comme résistance, ce samedi dans Plan Large, avec Danny Rosenberg et Henri-François Imbert, et aussi Steve McQueen et encore Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, un plan large que nous dédions avec tristesse à Laurent Canté, disparu trop précocement ce jeudi, grand cinéaste de la complexité de l'homme et de la société, de la jeunesse fougueuse et radicale, du langage et des déplacements, avec une pensée affectueuse à ses familles privées et de cinéma, et notamment ses complices de toujours, Robin Campillo, Gilles Marchand et Dominique Moll. Les deux films qui nous occupent aujourd'hui voient leurs personnages se déplacer, précisément dans un mouvement constant, pour échapper à toute assignation étatique ou identitaire, et ça tombe bien, parce que le cinéma aime beaucoup ça, le mouvement. Le premier est un jeune soldat israélien qui fuit à toutes jambes une opération militaire dans la bande de Gaza sans se rendre compte qu'il transporte la guerre avec lui dans un Tel Aviv bipolaire entre déni et exaltation nationaliste. C'est le déserteur dont Sophie-Catherine Gallet nous avait déjà parlé ici, à son retour du festival de Haïfa où le film avait été projeté la veille ou presque de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, qui allait donner évidemment une actualité imprévue à ce film visionnaire. Son auteur, Danny Rosenberg, est avec nous en direct aujourd'hui et on l'en remercie, comme on remercie en face de lui le toujours opiniâtre Henri-François Imbert, qui 20 ans après avoir ausculté dans Nos Passaran, album souvenir, la mémoire des camps d'internement en France des républicains espagnols, part dans le temps du voyage de ceux où étaient enfermés pendant la Seconde Guerre mondiale les tziganes français, pour mieux partir à la rencontre de celles et ceux d'aujourd'hui sur les routes du sud de la France. Dans le journal du cinéma, l'anglais Steve McQueen racontera comment, en filmant aujourd'hui à Amsterdam les lieux de la persécution des juifs par les nazis, il a moins fait œuvre d'historien que d'invocateur de fantômes au présent. Et en fin d'émission, Sandra Onana racontera comment, pour son premier film hollywoodien, le hollandais violent Paul Verhoeven s'est amusé dans Robocop à dézinguer l'Amérique et ses penchants sécuritaires. Mais pour l'heure, il est temps de se sortir la tête de l'eau.
So is the water really good? Thank you. Oh, no problem. It's a mitzvah.
Yeah, yes, and you know, if we could do more, we would do more. They met.
Yes, sir. I salute you. You are the heart of this country.
Dis-moi, comment est ton âme?
Soul.
Non, je veux dire plutôt esprit.
Ah, the spirit. He said you are the spirit of this country.
Yes, spirit. You are the spirit of Jewish people of protecting a Jewish land.
Yes.
Thank you.
Bon, écoute, arrête de l'embêter.
Non, mais je voulais une photo.
On va se baigner.
Ok. Oh, can you keep our things, please?
Of course, yes.
Thank you.
We're going to swim.
Yes. Enjoy.
Tchik-tchak.
Bonjour, Danny Rosenberg.
Shalom.
Et merci à Michel Zlotowski de traduire vos propos en direct de l'hébreu. On l'a entendu, même la tête dans l'eau, il y a des sirènes. Et dans le ciel, des roquettes qu'explosent les missiles du Dôme de Fer. On est à Tel Aviv, sur la plage. Et ce jeune homme que des touristes français félicitent, confie d'admiration après avoir gardé son uniforme et son fusil d'assaut pour qu'il puisse se baigner. Il s'appelle Shlomi, il a 18 ans. Et comme tous les jeunes Israéliens, il fait son service militaire. Sauf qu'il ne devrait pas être là, sur cette plage. Il devrait être dans son unité, dans la bande de Gaza, en pleine opération spéciale. Précisons que ce film, Le Déserteur, a été tourné avant le 7 octobre et la guerre en cours à Gaza, et qu'il a été imaginé bien avant encore. Shlomi, ça aurait pu être vous דני רוזנברג.
כן, שלומי, זה היה יכול להיות אני.
אוי, שלומי, זה רפי את רמוע.
אם היה לי אומץ.
זה שווה לי קוראז'.
אני, כשהייתי בעצמי חייל קרבי...
כאן ג'טה סולדה, קומבטן, במם.
פנטזתי
על לברוח. פנטזמה, דפויט, פרפרי, פויט.
אפילו הייתה לי... היה לי ניסיון אחד
ש... ומם, ג'י פי אינטנטטיב.
באמת ניסיתי לעשות את זה.
ג'י טנטה דה לפר.
אבל לא באמת עשיתי את זה.
ופרנשמן, ג'י פרוסי על פר.
אני חושב שאבל... שם אולי ניבט הרעיון...
פתט כזה דולה כביינס...
מה היה קוראים? מה היה קורה באמת אם הייתי
מצליח? Qu'est-ce qui serait passé si, si j'avais réussi? Si j'étais allé jusqu'au bout? Comment ma famille aurait réagi? Comment mon entourage aurait réagi?
Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression que Shlomi a préparé son départ, cette désertion, telle que vous le filmez, vous le cadrez au ras du sol, et c'est comme si c'était ses pieds qui s'arrêtaient avant tout.
אני מסכים, זאת אומרת, ההחלטה של שלומי...
Je suis d'accord. La décision de Shlomi, c'est de suivre ses pieds.
הרגליים שלו מתחילות לרוץ.
Ses pieds commencent à courir. À leur suite, c'est son corps. Et peu à peu, il tente de créer une sorte de récit logique, peut-être une raison. Mais le problème de...
צירים הנרטיביים
les ressorts narratifs
מבחינתו כמו נקודות אחיזה
qui sont comme des points d'ancrage en fait
קורסים אחד אחרי השני
et bien ils courent les uns après les autres ces points là
ולבסוף הוא באמת
où ils s'écroulent les uns après les autres
לבדו,
et en fait il reste tout seul après avoir tenté de se libérer de toutes ses identités alors que c'est son identité qui est son principal ennemi et son identité le rattrape.
Oui, on pourrait dire que c'est un corps avant tout, effectivement, un corps qui agit, qui est débordé de vitalité, presque animale hein, par moments, notamment quand on le voit manger, il dévore ce qu'il a dans son assiette. Et ce corps en action, non seulement c'est très cinématographique, évidemment, mais c'est le principe même du burlesque. On pourrait dire que vous avez fait un film, une sorte de burlesque tragique, et je crois que c'est pas pour rien que vous vous référez à Buster Keaton, Danny Rosenberg.
מבחינתי התנועה
bon point de vue le mouvement
בעצם ההמשך של ההתנגדות
c'est en fait la poursuite de la résistance
והיא גם משקפת את יצר החיים
et ça rend compte de sa libido sa pulsion de vie son désir de se confronter contre
מופיע גם הכפייה במקום
à l'encontre c'est le lieu. Il fuit ce qui se passe, ce qu'on l'oblige de faire sur un lieu. Et en fait, quand lui bouge contre le cadre, à l'extérieur du cadre, en fait, il fait bouger tout l'édifice. Et c'est l'intérêt, effectivement. On part du burlesque. C'était en fait un groupe anarchiste. C'était Chaplin et tous ses copains. C'était une lutte contre la société. Et donc, quand j'ai imaginé les poursuites, je les ai imaginées comme c'était les flics de Keaton.
Et précisément, on les voit courir dans la ville comme ça, c'est effectivement très impressionnant. Et alors, on a l'impression que c'est aussi l'histoire d'un personnage qui voudrait fuir un genre de cinéma. Il fuit le film de guerre, puisque votre film commence comme ça. Alors, on ne sait pas vers quoi il voudrait aller, mais c'est dans un film noir qu'il se retrouve bien malgré lui, Danny Rosenberg.
De mon point de vue, ça faisait partie des identités dont il tentait de se débarrasser. Il ne sait pas exactement ce que c'est que la guerre. Il sait ce que c'est que les films de guerre.
Il
connaît aussi les jeux de guerre, les jeux vidéo. Et donc j'ai tenté de filmer au début comme un jeu vidéo, puis après, il passe de genre en genre. Et quand il rentre à la maison, ça devient l'Odyssée. Et quand il revient, c'est comme Ulysse qui revient de son voyage. C'est comme ça que je l'ai filmé. Et puis il passe à la comédie romantique. Et je l'ai filmé comme une comédie romantique. La nuit arrive. J'arrive au film noir. Et finalement, il est dans un film de cow-boy. Et son vélo, c'est comme si c'était son cheval.
Oui, et c'est aussi un personnage à la Fritz Lang, si on parle de film noir. Il y a un moment, il est isolé, il est dans cette grande ville où il y a beaucoup de monde, mais lui, il est seul et c'est une bête traquée. Il est en permanence à regarder derrière lui avec ses yeux apeurés.
Je
crois que le film noir représentait un sentiment qui a été créé dans la société. C'est l'individu le ressent comme ça, c'est la société contre lui. Peut-être que c'est l'histoire de Shlomi dans la société israélienne, mais il sent que tout le monde veut le renvoyer vers la guerre, et non, il ne veut pas.
Et heureusement pour lui, dans cette course insensée, il y a tout de même par moments des havres de paix.
Dai, maspich. Shoter mi dai kev ba'olam. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se quedó sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de la simple cosa. עכשיו בוא, תלך לחדר שינה, תישן בבוקר, תתעורר, נראה מה יהיה הלאה.
כאן טוב לי, סבתא.
בוא, קו, 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 קו.
C'est sa grand-mère atteinte, on l'imagine, de la maladie d'Alzheimer, mais qui a tout de même la présence d'esprit de couper les informations, parce que, dit-elle, il y a trop de souffrance dans ce monde. C'est donc chez sa grand-mère que Shlomi peut prendre un peu le temps de s'arrêter, d'esquisser avec elle quelques pas de danse et de dormir un peu. Et alors c'est par la fenêtre qu'il entre chez lui, et c'est souvent par la fenêtre qu'il s'enfuit des endroits où il est coincé, que ce soit par la police, par des journalistes. Pourquoi est-ce que ce personnage passe tout le temps par des fenêtres, Danny Rosenberg ?
Bien, dans la suite de ce que j'ai dit précédemment, par la porte principale, personne ne l'a laissé rentrer. La porte principale, ben, elle est fermée à clé devant lui.
Et
c'est le moment dans le film, au début du film, où il arrive à la maison de ses parents, et la porte est fermée, à l'encontre, plutôt contrairement à ce qu'il pensait. Et là, il comprend que c'est le moment de Toto, on n'est plus dans le Kansas. Et à partir de ce moment-là, il ne passera que par les fenêtres. Le seul endroit qui l'accueille, c'est la maison de la grand-mère.
Mais
c'est un endroit hors du temps et hors du lieu, hors de l'espace. Parce que voilà, elle est dans la démence, elle ne sait plus très bien qui est face à elle. Et là, il trouve une solution pour ses sentiments, mais qui ne dure qu'un instant.
Alors ce que raconte aussi votre film Le Déserteur, Danny Rosenberg, c'est qu'il est impossible d'échapper au récit politique, puisque après sa disparition, l'armée va croire qu'il a été enlevé par le Hamas, ce qui va être la justification d'une opération au Hamas, dans la bande de Gaza, de bombardements, d'attaques qui vont faire des morts, etc. C'est-à-dire qu'on est dans la situation actuelle. Quasiment. Comment échapper au narratif politique ? C'est ça, vraiment, la question que pose votre film, Danny Rosenberg ?
Tout à fait exact, c'est ce qui m'a poussé à écrire. Moi, je voulais en fait m'occuper des relations entre individus, mais la réalité, la violence, elle est rentrée par la fenêtre. Et je l'ai mis de telle sorte sur le papier que j'ai voulu raconter l'histoire d'un homme qui ne veut pas faire partie de ce cercle, de ce labyrinthe. Mais il n'y a pas de possibilité de fuir.
אולי האמביציה שלו,
peut-être que son ambition de perdre son identité,
היא מונגשת או מתעמתת עם כך שהוא הופך להיות הדימוי של המדינה, זאת אומרת, אדם שרצה שאף אחד לא ידע מי הוא, הוא הופך להיות האדם שכל מדינת ישראל מדברת
אליו. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est devient quelqu'un dont tout le monde parle dans le pays. Une identité qui lui est imposée.
Et puis votre film permet sans doute aussi de comprendre le choc qu'a été en Israël l'attaque du 7 octobre, parce que vous montrez souvent des personnages qui ferment les yeux. Il y a une scène notamment, il est en voiture avec sa copine qui doit partir au Canada, et elle lui demande « si tu fermes les yeux, est-ce que tu t'imagines rester en Israël ?» Il lui répond « bah, si je ferme, c'est l'accident, puisqu'il est en train de conduire. Je tiens le volant », lui dit-elle. Et effectivement, il va fermer les yeux, il va conduire les yeux fermés pendant que elle tient le volant. C'était une métaphore de l'aveuglement d'Israël que vous vouliez montrer, Danny Rosenberg.
Letzariken.
Malheureusement, oui.
Better עכשיו אחרי 7 באוקטובר.
Certainement après le 7 octobre, on peut voir
עצימת העיניים אל מול המציאות שהיא מאפשרת.
Les gens qui ferment les yeux face à la réalité qui permet cette façade de normalité. Certainement à Tel Aviv, qui est une ville qui tente de se prétendre ville européenne, normale, jeune, qui se fête elle-même. Alors qu'elle est à une heure de l'enfer sur terre.
אבל התחושה הזאת, רוחות הרפאים של המלחמה,
ce sentiment, ces hallucinations, ces fantômes de la guerre pénètrent. Et les gens sentent que la terre tremble sous leurs pas. Et ça crée cette ambition de faire encore plus de fêtes, de manger encore plus. Et il faut faire vite parce que demain on va mourir.
Et
je pense que au moment où les gens ouvriront les yeux, donc ces fantasmes cesseront d'exister.
Alors c'est pas évident dans un pays qui ferme les yeux de garder les yeux ouverts. J'imagine sur la situation d'en faire des films. On sait les tentatives des ministres de la culture des gouvernements Netanyahou de brider toute contestation dans les milieux artistiques, en particulier dans le cinéma. Comment est-ce qu'on arrive à monter, même financièrement, un film pareil en Israël, Danny Rosenberg?
ממש בשבועות האחרונים,
eh bien, au cours des dernières semaines, le gouvernement a tenté de tuer complètement les fonds du cinéma israélien, l'équivalent du CNC ici, pour qu'il ne puisse avoir aucune liberté, aucune indépendance. Et ce film aussi a été présenté en France, mais après le 7 octobre, personne ne veut le projeter, parce qu'on dit que ça va heurter les sentiments du public. Moi, j'essaye de faire des petites projections à Tel Aviv principalement,
et
je fais passer le film par LinkedIn, parce qu'il m'est important que les gens voient ce film. Et finalement, je pense que ça fera du bien au cinéma israélien, parce que cette anomalie face au fond gouvernementaux, et ben, ça s'est terminé, ça. Et ça libérera aussi la langue, le langage.
Vous avez terminé entre-temps un autre film, Danny Rosenberg, il s'appelle « Des chiens et des hommes », si on traduit littéralement le titre original. Vous l'avez filmé après le 7 octobre, dans les ruines d'un des kibbutz dévastés par le Hamas, celui de Nir Oz. Vous pensez que le cinéma est prêt maintenant pour raconter, pour comprendre, pour explorer ce qui s'est passé à ce moment-là?
Je ne sais pas si le cinéma est prêt. Je sais que c'était mon ambition, mon désir après ces journées, de faire partie de la réalité, parce que j'ai senti que la réalité ne m'était montrée que par les écrans de télévision, véritablement par les canaux de la télé israélienne qui se comportent comme de la propagande. Et le film lui-même, pour moi, c'est un film qui raconte une jeune femme qui est une jeune fille plutôt qui rentre au kibbutz, qui a l'expérience de cette catastrophe là-bas, et puis qui se rend compte aussi de ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, à Gaza. Elle essaye de trouver sa voie, et ça représente à peu près ce que je fais moi. J'essaie de comprendre la réalité, j'essaie de mettre un ordre dans tout ça. C'était ma motivation pour cela. Et je l'ai fait sans budget, absolument sans budget. Et ça m'a libéré.
Merci Danny Rosenberg, on attend des chiens et des hommes avec impatience. En attendant votre nouveau film, Le Déserteur, est à voir en salle depuis ce mercredi. Merci encore à Michel Zlotowski d'avoir traduit vos propos dans cet entretien. Vous écoutez France Culture, Plan Large, et vous restez avec nous. Danny Rosenberg, on vous emmène à présent dans un moment pas très reluisant de l'histoire de France.
Jargeau, le camp, le 16 juillet 1945. Monsieur le directeur général, avec mes 3 enfants, je suis internée depuis près de 5 ans. Le dernier camp que je connus fut Jargeau, depuis le 18 juillet 1945. Mon homme, avec qui je vécus pendant 17 ans, me donna 3 enfants qui sont vivants et avec moi. Il est prisonnier en Allemagne. Voici sa dernière adresse. Et c'est une adresse à Orianenbourg. De Antoine Boer, je n'ai plus de nouvelles depuis près de 2 ans. Mon homme est-il encore en vie ? Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'avec mes 3 enfants, nous sommes toujours internés à Jargeau. La raison pour laquelle je m'incline à vos pieds, monsieur le directeur général, c'est pour m'accorder la libération, pour pouvoir assurer un avenir sain et juste à mes chers enfants. Donnez-moi les moyens, monsieur le directeur, et combien je vous serai reconnaissante. Je désire vous dire, monsieur le directeur, que mon dernier a 6 ans, et combien il est faible, et que de suralimentation il me faut acheter, et aussi combien il me faut travailler. Je porte toute ma confiance en vous, monsieur le directeur, et veuillez agréer mon plus profond respect, et quant à mon dévouement, il vous est tout acquis. Jeanne Ziegler, camp de Jargeau. Il faudrait un domicile et du travail pour la sortie du camp, à mon avis. Les permissions sont suspendues provisoirement, puisque les bénéficiaires ne rentrent pas.
Bonjour, Henri-François Imbert.
Bonjour.
Cette voix qu'on a entendue, c'est celle d'Hélène Mouchard-Zé, la fille de Jean Zé. Elle parle en tant que présidente du CERCIL, le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, une association, je crois, qui a depuis disparu, hein, qui a fusionné en 2018 avec le Mémorial de la Shoah à Paris. On est en 2016 près d'Orléans et on y commémore le 70e anniversaire de la fermeture du camp de Jargeau, où pendant la guerre étaient détenus, comme dans une trentaine de camps en France, les Tziganes. Si on fait le calcul, 70 ans après, ça nous met en 1946. Autant dire que la libération de la France n'a pas sonné immédiatement celle des Tziganes, en témoigne cette lettre datée du 16 juillet 1945, alors que la guerre est finie et bien finie, et où une femme, donc Jeanne Ziegler, demande très respectueusement la libération de sa famille. C'est comme ça que ça a commencé l'aventure de ce nouveau film, Le Temps du Voyage, Henri-François Imbert, sans trop savoir où il allait vous mener ce voyage, mais avec un désir au départ.
Oui, le film a commencé effectivement lors de cette visite conférence du camp de Jargeau à laquelle j'ai assisté quelques mois avant cette commémoration au cours de laquelle Hélène Mouchard-Zé lisait cette lettre de Jeanne Ziegler. Donc en fait, le CERCIL avait organisé une visite conférence du camp de Jargeau et en fait, j'y suis allé et là, quand j'ai entendu le récit de ce qui s'était passé au sujet de l'internement des Tziganes, je me suis dit que j'allais faire un film. Et c'était peut-être l'accès que je trouvais enfin au monde Tzigane, qui m'attirait depuis longtemps, depuis l'enfance, sans que j'aie jamais trouvé comment transformer cette attirance en travail. Et il me fallait une sorte de terrain de travail, et je me suis dit que le point de départ de tout ça pouvait être l'internement des Tziganes que j'avais rencontré déjà lorsque j'avais fait mon film No Pasarán, album souvenir.
Oui, parce que les camps où étaient internés les républicains espagnols ont servi ensuite à interner des Tziganes et des Juifs.
Oui, oui, oui. Alors, chaque camp a une histoire différente, bien sûr. Mais lorsque je faisais No Pasarán, album souvenir, qui est sorti en 2003, un film sur l'internement des républicains espagnols, donc, lorsque je me rendais dans les lieux de cet internement, je découvrais qu'il n'y avait pas eu que les républicains espagnols, mais qu'il y avait aussi eu les Tziganes. Mais le film ne pouvait pas raconter toute l'histoire et toutes les histoires. Donc c'était comme si j'avais mis de côté cette histoire des Tziganes, de l'internement des Tziganes, pour finalement y revenir 20 ans plus tard.
Alors, sauf que dans No Pasarán, album souvenir, hein, qui ressort en salle parallèlement à votre nouveau film, vous partiez de cartes postales et vous étiez à la recherche comme ça d'autres cartes postales pour presque faire la collection complète qui raconterait cette histoire. Sauf que là, des images de ces camps particuliers où ont été internés les Tziganes, il n'y en a pas vraiment. Il fallait donc les produire vous-même à partir des rares traces physiques qui subsistent. Notamment, on voit des ruines d'un camp parmi les vaches sous un collège. Vous étiez à la recherche quand même d'un support matériel pour raconter cette histoire.
Oui, c'est vrai qu'il reste pas grand-chose. Et il reste pas grand-chose, notamment parce que les Tziganes eux-mêmes, une fois qu'ils ont été libérés de ces camps, n'ont pas fait le récit de cet internement. Ils ont préféré considérer que c'était une zone noire, une zone sombre de leur histoire, et qu'il valait mieux ne pas trop en parler. Et finalement, le témoignage a été assez parcimonieux. Et il y a quelques historiens qui se sont penchés là-dessus petit à petit, mais ça n'a pas produit une documentation extraordinaire. Donc finalement, on est assez tard aussi maintenant, il y a très peu de témoins. Donc le film devait faire comme ça, avec une sorte de pauvreté, mais pauvreté au sens noble, comme ça, et trouver des moyens pour que le récit s'incarne, et pour que la parole advienne.
Alors le récit s'incarne par des personnages qui déboulent, on pourrait presque dire, dans votre film. C'est-à-dire que vous avez un dispositif de cinéma assez particulier, vous avez un cadre qui est très accueillant. C'est comme si vous attendiez que des personnages que vous n'attendiez pas s'y engouffrent dans ce cadre pour emmener le film dans d'autres directions, comme si ce que vous vouliez filmer ou capter avant tout, c'est le moment de la rencontre, Henri-François Humbert.
Oui, 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 pour moi, le moment de la rencontre, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, je pars, moi, avec une idée, un désir de film, mais je ne vais pas pouvoir faire le film tout seul. Je ne vais pouvoir faire le film que s'il y a des protagonistes, des gens qui décident de devenir des personnages. Et il faut effectivement que moi, je sois assez accueillant pour que ces gens se disent « Tiens, il est en train de faire un film, qu'est-ce que ça peut raconter ce film ? Et si j'allais l'aider à raconter ce qu'il faudrait qu'il raconte ?» Donc il y a un moment comme ça où mon dispositif, c'est un dispositif d'ouverture d'un espace de travail, et la caméra permet une sorte d'espace d'écoute. Et les gens se disent « Tiens, voilà, dans ce film, j'aimerais bien qu'on raconte ça. » Et c'est à ce moment-là qu'ils entrent dans le film. Parfois, on le voit dans le film, le moment où je rencontre Thierry Patrac, c'est le personnage qui vient, qui me dit « Maintenant, on prend en charge notre histoire, on a une culture, on a une histoire, et maintenant, on transmet ça à nos enfants. » Ben, on se connaissait pas du tout. C'est-à-dire que j'étais quelque part, il voit que je suis en train de filmer des gens qu'il connaît par ailleurs, Et il se dit, tiens, mais il faut que j'aille dire ce que moi j'ai à dire. Et peut-être qu'il est en train de faire un film, il voit bien à mon attitude que c'est pas celle d'un journaliste, que peut-être je suis là avec moins de questions, que je suis là avec plus de retrait, plus de discrétion, peut-être aussi plus de timidité, entre guillemets. Et il se dit, tiens, je vais aller voir si je peux faire du cinéma avec cette personne.
Prendre en charge leur histoire, ça passe aussi par ça.
Cette 13e tribu est sortie d'Égypte, elle aussi. Elle a cherché sa terre promise. Elle avait soif de liberté. Alors elle a cherché, toujours chassé. On sait qu'elle a demeuré très longtemps en Inde, d'où la déesse Kali. Kali veut dire gitane. Et puis, chassée encore, une fois de plus, car ce n'était pas leur terre promise. On les voit encore aujourd'hui en train de chercher. Avant en roulotte, aujourd'hui en caravane. Cette 13e tribu qui est la nôtre a bien compris que le monde entier lui appartient. Aucune frontière. Le ciel nous abreuve. Il est notre père. La terre, notre mère. Nous rassasie. Et les arbres et les fleurs sont nos frères et sœurs. Ils nous oxygènent. Ne dit-on pas que dans toutes les légendes, il y a un fond de vérité?
Cette femme qui, sur scène, raconte la légende des gitans, elle s'appelle Nathalie Rey. Elle participe avec Thierry Patrac, dont vous venez de parler, à un spectacle dont vous filmez les répétitions et les représentations. C'était le geste artistique que vous vouliez filmer ou précisément la prise en main d'une histoire, d'une culture par celles et ceux qui en sont les dépositaires, Henri-François Imbert?
C'est les deux, hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais le film avec une suite de rencontres comme ça et... Et à un moment, les personnages me proposent des choses. Donc, quand ces personnages se sont engagés dans la création de ce spectacle théâtral, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit « Nous, on va faire ça, on va créer un spectacle théâtral qui parlera de notre culture, de notre histoire et de l'internement. Est-ce que tu veux venir suivre les répétitions, la création du spectacle, etc. ?» Et donc, c'était une occasion de rencontrer d'autres personnages, de suivre une action, de suivre un travail collectif et de voir comment la question de l'internement, du récit, pouvait s'incarner avec cette création théâtrale. Donc voilà, j'ai suivi cet objet qui était une sorte d'objet multiple, comme ça, dans lequel, par exemple, Nathalie prend place.
Mais c'est ce qui fait évoluer aussi le propos de votre film, puisque ça commence donc par cette histoire d'internement, puis par une dénonciation de la situation actuelle des gitans en France, voire l'évocation en plein, vraiment dans le moment du tournage, de la disparition enfin de ce carnet de circulation nomade. Ça a disparu seulement en 2017, et le film devient plus une interrogation, et même très positive, sur comment être gitan aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça signifie?
Oui. Oui. Vous me demandez ce que ça signifie?
Non, mais c'est sur la bifurcation, moi, que ça m'intéresse. Oui. Comment le sujet a changé, presque malgré vous. On est passé de la déploration à une interrogation, et puis même à des réponses très positives. Je pense à ces gamins qui expliquent que leurs amis à l'école, en fait, trouvent ça très cool d'avoir des copains gitans.
Oui. Oui, oui. Ben, en fait, les personnages eux-mêmes sont très positifs par rapport à leur vécu, par rapport à leur culture. Donc en fait, moi je suis ça. Je suis simplement ça. Les choses apparaissent comme ça de manière positive parce que au fond elles sont positives. Et mon travail à moi, c'est de... Moi, je ne suis pas sociologue, hein, je ne suis ni sociologue ni historien, donc mon travail, ce n'est pas d'essayer de comprendre les choses et de les restituer sous forme d'un discours, etc. Mon travail, c'est uniquement de participer au partage d'une expérience, c'est-à-dire de me lancer dans une expérience qui est en fait une suite de rencontres, de moments partagés, de choses qui me sont transmises aussi, et travailler à la restitution de cette expérience sous forme d'un récit cinématographique dans lequel chaque personnage va pouvoir apporter ce qu'il a à apporter.
Oui, ce qu'ils ont à apporter, c'est aussi des peut-être quelques solutions au marasme de l'Occident en général actuellement, hein, qui gagnerait à se gitaniser si on suit un peu le film, notamment dans un autre rapport à la nature, oui. À la propriété. C'est ce que propose aussi votre film.
Oui, oui, à l'éducation aussi. Moi, j'ai été très frappé par la place des enfants dans toutes ces communautés, des enfants qui sont au centre, en fait, parce que les parents leur consacrent beaucoup de place et ils sont heureux parce qu'ils sont accueillis et parce qu'ils accompagnent. Thierry le dit à un moment, il dit ben, il faut pas simplement offrir des choses aux enfants, il faut passer du temps avec eux, il faut être avec ses enfants. Et ça, je crois que c'est ce projet éducatif, en fait, qui se fait, qui n'est pas un projet, qui est juste naturel, quoi. Un usage comme ça, eh bien finalement c'est quelque chose dont on pourrait beaucoup s'inspirer, nous.
Le temps du tournage, c'est plusieurs années. Enfin, si on vous voit les petits moments temporels qu'on peut, oui, repérer dans le film, vous montrez aussi vos déplacements. Souvent, on vous voit devenir un cinéaste nomade un peu. Donc, on se dit que vous avez été un peu gitanisé, vous aussi. Qu'est-ce que le tournage de ce film, sa fabrication, a déplacé chez vous?
Écoutez, le tournage, effectivement, ça a commencé en 2016, et puis le film a été terminé en 2023, c'est-à-dire que pendant ces 7 ans, on s'est rencontrés, on a créé une relation, et puis j'ai pu répondre à un tas d'invitations, comme ça, c'est-à-dire les moments où les gens me disent « Tiens, il faudrait que tu viennes filmer ça », et puis on se rappelle après, des fois j'ai le sentiment d'avoir raté quelque chose, alors j'y retourne quelques mois plus tard, etc. Donc de loin en loin, on crée un ensemble d'expériences qu'on partage, et puis à un moment... j'essaie de comprendre avec la monteuse Céline Tos, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait raconter, qu'est-ce que tout ça nous apporte, qu'est-ce que tout ça nous apporte d'intéressant à partager avec le public. Donc en fait, c'est une série de petits déplacements, et tous ces petits déplacements, c'est à chaque fois qu'on comprend quelque chose qui nous semble intéressant.
Merci Henri-François Humbert. Le temps du voyage est sorti en salle ce mercredi, en même temps que la réédition de votre film de 2003, No Pasaran, album souvenir. Si vous l'avez raté à l'époque, ne le ratez pas aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, et dans Plan Large, on ouvre, comme chaque samedi, le journal du cinéma avec encore quelques autres films sortis cette semaine, dont des rencontres, d'autres rencontres avec quelques femmes remarquables.
Tu me filmes parce que je suis ta mère de théâtre.
Le gouvernement trouvait que nous étions des gens dangereux.
Les coups d'État militaires, c'était mars 76. Je suis venue en France quelques mois avant.
Mon père part un matin pour travailler et ne revient jamais. Ça a été la première rafle des Juifs. Je vais mourir en hurlant.
On n'entend plus rien. Donc ça permet de dire plein de conneries.
Elle a les lunettes, le sonotone et le dentier. Eh bien, j'ai dit, dis donc, quand t'as tout sorti, reste pas grand-chose, hein.
Exact.
Vous marchez à l'obsession, Franck.
Mais je savais pas que vous étiez là.
Qu'est-ce que vous faites, là?
Et vous, alors?
Je suis persuadée qu'il y avait quelqu'un d'autre présent au moment des faits.
Ouais.
Mais vous, vous vous dites quoi?
Il est là pour manger ton âme.
Look, Bamoim, Ma! Look, Bamoim, Ma!
Nick, Hayer, Goro, Doro, Tav, Zorga. Тэгэд нэг мэдсэн чинь би Улаанбаатар хотын дээгүүр нисчихсэн.
Манай дээд ангийн найз охин хагалгаанд орох гэж байгаа гинэ.
Махарч.
Why don't think I was put on this earth just to sing? Me. I want to be a wife. I want to be a mum.
I don't bang out 10 hits by lunch. I need to live my songs. So that's what I'm going to go and do.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, une légende du théâtre mais aussi du cinéma, celle qui fut à jamais pour Alfredo Arias, complice au long cours La femme assise de copie, filmée là aussi au long cours de 2016 à 2022 par la réalisatrice et aussi actrice Sandrine Dumas, c'est Marilou Marini, rencontre avec une femme remarquable, et effectivement elle l'est remarquable du haut de ses 84 ans. Tout aussi remarquables les octogénaires, nonagénaires, voire centenaires que Klaus Drexel est allé filmer avec son habituel sens du cadre, dans leur lieu aux quatre coins de la France, recueillant leurs paroles habitées et souvent mordantes, et avec elles des décennies d'histoire, c'est le documentaire au titre le moins menteur de la semaine, Les Vieux, de Klaus Drexel. Donc, un duo de policiers qui enquêtent sur d'inquiétantes disparitions d'enfants et sur des meurtres mystérieux et sauvages, c'est Le Mangeur d'âmes, la transposition dans la forêt des Vosges, et avec des acteurs qu'on associait plus volontiers au cinéma d'auteur à la française, du cinéma d'exploitation à l'américaine, dans le genre horreur gothique et gore, par un duo qui s'est spécialisé dans l'entreprise, Julien Maury et Alexandre Bustillo, et c'est plutôt réussi. Un autre duo, cette fois de filles révoltées qui essayent d'échapper au joug du patriarcat de leur village kosovar, en rejoignant la capitale de l'enclave dans les mois qui précèdent son indépendance, c'est Notre Monde, le second long métrage d'une réalisatrice qu'on avait découverte actrice, Luana Bajrami, très bellement portée par ses interprètes Elsa Mala et Albina Krasniki. Très belle interprétation encore que celle du rôle-titre d'un jeune chaman, premier long-métrage mongol signé de la réalisatrice Ragvadulam Pourev Oshir pour incarner cet adolescent partagé entre les traditions qui font de lui le chaman du titre et son désir de modernité et son éveil à la sensualité dans un Oulan-Bator qu'on n'imaginait pas comme ça. Et puis enfin, dans le genre ultra-balisé par nature décevant du biopic, une belle réussite et bonne surprise, le Back to Black de Sam Taylor Johnson qui, en faisant incarner Amy Winehouse par l'étonnante Marissa Abella, échappe à ce que le destin de la chanteuse morte à 27 ans aurait pu avoir de scabreux et de morbide pour se concentrer sur le bain musical dont elle a émergé et sur la capacité de l'art à sublimer la misère amoureuse. Et puis il y a encore, dans un tout autre genre, mais pas très éloigné de nos conversations précédentes, le documentaire fleuve de Steve McQueen et Bianca Stirter, Occupied City. Le cinéaste et plasticien britannique installé à Amsterdam depuis plus de 25 ans, il filme sa ville d'adoption aujourd'hui en superposant au son un récit historique dans la voix sans affect de Melanie Iams qui raconte ce qui s'est passé dans chacun de ces lieux pendant l'occupation nazie et en particulier le sort funeste réservé aux Juifs qui y habitaient. Adapté du livre inédit en France de sa compagne, Bianca Stirter, Atlas d'une ville occupée, Amsterdam 1940-1945, le film qui renoue avec les symphonies de ville comme on en tournait dans les années 20 fait se télescoper parfois de manière un rien hasardeuse puisque le film a été tourné en plein Covid. L'Amsterdam d'aujourd'hui et celui d'hier, une confusion des temps assumée par le cinéaste Steve McQueen.
In May 1940, Amsterdam was taken over by the Germans. Immediately, they set the clock forward, So it was the same time in Amsterdam as in Berlin. The weather report disappeared from the newspapers. It was now a military secret.
Je crois que ce qui m'intéressait le plus, c'était le présent, plus que le passé. Pour moi, le passé était pour beaucoup du présent. Parce que je me suis installé à Amsterdam en 1996-97, et pour moi, c'était comme vivre avec des fantômes. Il y avait deux récits qui se déroulaient en même temps. Pour moi, il s'agissait d'illuminer le passé dans le présent, de parsemer les fantômes de fleurs pour les rendre visibles.
Nous, comme spectateurs, nous sommes partagés en permanence entre ce que nous voyons et ce que nous entendons et ce que ça fait ressurgir d'histoires avec parfois des effets de collision presque assez surprenants. Comment est-ce que vous avez pensé justement ces temps différents ?
That's the kind of interesting thing that you just said, because...
C'est ça qui est intéressant, parce que oui, on a envie que ça aille ensemble. Si vous mettez deux choses dans la même pièce, il doit y avoir une relation entre elles. Parfois c'est le cas, parfois non. Mais on veut vraiment qu'elles aient une relation. Ça a à voir avec comment on voit les choses, comment on en fait l'expérience. Avec Occupy City, ce qu'on a fait, d'une certaine manière, c'est créer des parallèles, mais en même temps, rapprocher des choses qui sont totalement opposées dans le même cadre. Cette complexité, c'est ce qui nous intéresse. Cette complexité, cette spécificité de ce temps particulier, c'est comme ça que nous nous relions à notre propre présent. Parce que souvent, quand on regarde les images, on ajoute au récit son histoire personnelle.
Ce que le film produit aussi chez le spectateur, à cause de la durée aussi, c'est un certain état d'abandon, de rêverie par moment, presque d'hypnose. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez provoquer ?
Ce qui m'intéressait, c'est ce que le film peut faire. Le film n'est pas encore fini. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours des attentes quant à ce que le film est, ce que le film peut faire. C'est comme quand on va à un concert classique. On ne peut pas retenir toutes les notes dans sa tête. Souvent, on part ailleurs et on revient. C'est notre but. Vous pouvez penser à autre chose, puis revenir au récit. C'est ce que nous voulons faire, parce que ça fait partie de nos vies. Des choses qu'on va attraper, des choses qu'on va rater. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est une méditation. C'est très important. On a tourné en pellicule 35 mm. Alors, le rituel de tourner avec ce matériau précieux nous a fait vraiment nous concentrer. Si on avait tourné en numérique, ça aurait été très différent. C'était vraiment comme une méditation chaque fois qu'on allait dans un lieu, dans la maison de quelqu'un. C'était presque comme faire du cinéma tai chi. C'était vraiment une syncope de vie, d'art et de pratique. C'était magnifique.
Occupy City de Steve McQueen et Bianca Stirter est sorti en salle lui aussi ce mercredi. Quelques annonces encore pour vous signaler d'abord une belle rétrospective consacrée au cinéaste géorgien Otar Yoseliani, de ses films interdits dans son pays quand il faisait encore partie de l'URSS, au merveilleux film français du meilleur héritier de Jacques Tati qu'il était. Ça s'appelle Histoire et Contes d'Otar Yoseliani. C'est à voir jusqu'au 30 juin à la Cinémathèque du documentaire de la BPI au Centre Pompidou à Paris, à regarder entre deux lectures du très beau livre et éclairant essai consacré par Bernard Eisenschitz au cinéaste disparu en décembre dernier, Un Merle chanteur, amitié avec Otar Yoseliani, livre qui vient de paraître aux éditions de L'Œil. On signale enfin à la Cinémathèque de Grenoble un très utile week-end consacré aux oubliés du cinéma qui, entre autres objets rares, étranges ou étonnants, rendra hommage aux usines de caméras Aaton, usine grenobloise, comme on le sait trop peu. C'est le week-end prochain, du 3 au 5 mai. Ceci annoncé, il est temps de régler enfin des problèmes essentiels avec des solutions drastiques.
I'd buy that for a dollar.
Would there be anything else, sir?
Yeah, I emptied the register and put the money in the bag.
Excuse me?
So give me your money and all of it and don't fuck with me! Now move! Open the safe, Pops. Open the goddamn safe!
We don't have a safe.
Shit! There's your goddamn safe! Open the son of a bitch!
I'm stoning, man.
I'm gonna count to three, and you better open that son of a bitch! Come on, come on!
I'm gonna blow her brains out.
I'll open the safe.
Good boy.
Come on.
Take it off, take it off, come on. Take it off.
Well, you better open that at gun at three. One, two.
Drop the gun. You are under arrest. Thank you for your cooperation. Good night.
Toujours le mot pour rire, ce policier robot, surtout quand il vient de régler son compte à un braqueur d'épicerie. C'est bien sûr Robocop, premier du nom, avant que le cyborg ne devienne une franchise de plus en plus droitière au cinéma, à la télévision et même en dessin animé. Robocop, c'est d'abord en 1987 la rencontre entre un cinéaste sulfureux qui avait grillé toutes ses cartouches dans ses Pays-Bas natales, Paul Verhoeven, surnommé le Hollandais violent, et un scénario de série B dont il va faire pour ses débuts hollywoodiens le premier volet de sa satire caustique de l'Amérique riganienne, de la télépoubelle et de l'idéologie sécuritaire au service du grand capital. Toujours aussi opérant, 37 ans après, Sandra Onana ?
Alors, on pourrait croire que non, parce que le film est tellement cinglé. Mais la réussite de ce premier Robocop, quand même, se vérifie dans le temps. C'est que le même scénario, aussi irrévérent était-il dès le départ, aurait pu donner lieu à une bombe réactionnaire dans les mains de quelqu'un d'autre. D'où les réserves de Verhoeven, d'ailleurs, au moment de découvrir le pitch. C'est un surhomme robot créé par des hommes d'affaires pour nettoyer le crime qui gangrène Détroit. Et donc, coup de génie, au moment où toutes les sagas d'action, effectivement, de la Reagan, Rocky, Rambo et consorts, s'aligne sur une même doctrine très patriote, très viriliste, et au moment aussi où le cinéma est quand même obsédé par l'explosion du crime dans des ghettos perdus pour l'Amérique. Il faudrait revoir New York 1997 de Carpenter et comparer. Sauf que, donc, Robocop rend impossible, ou du moins difficile, de confondre ce qu'il montre et ce qu'il cautionne. Ce qu'il montre, c'est donc cette dystopie où le big business a privatisé la police, le met au service d'un maintien de l'ordre à deux vitesses quand même, puisqu'il est corrompu par des barons du crime. Et le salut de Verhoeven, il est dans ce cahier des charges, c'est la distance grotesque. Quand on pense aux sagas de super-héros de nos jours quand même, on se rend compte qu'elles ont bien plus incorporé le logiciel hygiéniste dont se moque Verhoeven. On a vu assez de reboots de Batman ces 20 dernières années pour se dire que le justicier en lutte contre l'ensauvagement des villes, c'est pas une figure clivante. Et l'industriel à la Iron Man qui fabrique des armures high-tech, c'est un chic type de nos jours. Donc, bien sûr qu'il fallait mettre un peu le bordel dans tout ça en 87 et s'emparer de Robocop comme un film de monstre déjà. C'est le cow-boy de Frankenstein qui est filmé avec des plans en caméra subjective au moment de se réveiller dans le labo. Il y a cette réplique phare plus tard de Robocop parmi d'autres, « Stay out of trouble », éviter les ennuis, avec laquelle Verhoeven s'amuse beaucoup parce qu'on sait que c'est l'inverse de son état d'esprit. En fait, il ne veut que des ennuis, surtout pas un film qui se tient sage. Et alors, il a besoin de ce surjeu grand guignol des acteurs qui font les méchants. Il tenait à looker, disait-il, Kurt Woodsmith, qui joue le big boss des criminels pour qu'il ressemble au chef de la SS Heinrich Himmler. Et puis surtout, il y va dans la démesure de la violence, puisqu'il s'agit de ridiculiser la folie de l'Amérique pour les armes à feu. Le petit génie qui fait les effets spéciaux, Phil Tippett, c'est déjà le champion des marionnettes en stop motion. Il a déjà fait Star Wars. Et on lui doit aussi, la saveur de cette scène ultime pour moi, qui est la démonstration du premier prototype de robot militaire qui va réduire un cadre de l'entreprise en chair à pâté, il n'y a pas d'autre mot, dans une salle de réunion devant tous ses collègues. On a l'impression qu'ils ont peut-être ajouté en post-synchro cette réplique qu'on entend dans le fond avec un timing parfait, appeler une ambulance, insérée juste avant le plan où on voit de la viande fumante. Donc tout est là. Et alors, je sais que la lecture christique de Robocop a beaucoup inspiré la critique dans les 30 années qu'ont suivi la sortie. C'est le martyr du flic qu'on a massacré, la résurrection post-humaine, etc. Ce qui frappe un peu plus aujourd'hui quand même à propos de la répression policière dans une ville comme Détroit, c'est peut-être que le film ne fait aucun sort à la question raciale. C'est un angle presque mort, ou alors peut-être qu'il la déplace ailleurs, puisque le film s'ouvre sur une allusion à l'apartheid en Afrique du Sud. qui dégénère en conflit nucléaire d'ailleurs. Et ça, c'est glissé dans ces petites pastilles de journal télévisé avec des coupures pub ridicules qui servent à planter le décor de ce monde qui marche sur la tête. Donc c'est une des grandes idées du film. Une autre, c'est que Robocop, joué par ce Peter Wheeler, n'est pas un personnage très cool. En fait, pour un héros de l'époque, on peut lui donner des répliques de choc, il peut avoir des jeunes femmes qui se pendent au cou de leur sauveur, sans en faire un playboy, parce qu'en fait, le dosage entre le robot et l'humain chez lui ne fait pas spécialement triompher la part d'humain, et le physique très froid de cet acteur non plus, d'ailleurs, en termes de charisme. Je pense que c'est un choix, tout comme l'est la provoque de certaines scènes qui vont déjouer leur tentation romantique. Par exemple, une scène cliché qu'aurait dû être la coéquipière de Robocop, Officer Lewis, qui répare le torse blessé du héros autour d'un feu de camp. Bah, ça devient, on rafistole la machine comme on l'amènerait au garage et on l'entraîne à tirer sur des petits pots pour bébé ensuite. Donc on voit bien que le film rôde aussi autour d'une question de science-fiction qui doit beaucoup à Blade Runner, c'est « À quoi rêvent les androïdes ?». La scène pivot, c'est celle où Robocop se ressouvient de sa famille et de son supplice. Verhoeven a souvent dit que s'il n'avait pas fait ce film dans un moule hollywoodien, c'est ce prisme-là philosophique qu'il aurait voulu travailler en priorité, plutôt que celui de la vengeance, qui l'intéressait un peu moins. Ça n'empêche pas que son Robocop en 87 a quand même su venger quelque chose, ce serait l'intelligence du spectateur, en lui montrant qu'un bon spectacle populaire a besoin d'un peu d'indécence, et surtout qu'un bon film, ça doit chercher un peu les ennuis.
Merci Sandra Onana. Robocop de Paul Verhoeven, c'est à voir en salle en copie restaurée et version intégrale depuis mercredi. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jean-Guy Lamège et Marie-Claire Oumabadi. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Marie-Soisic Fraboulet et réalisée par Anne-Laure Chanel.